Bonjour, si vous le voulez bien, nous allons commencer ce 8e ou 7e cours selon la façon dont on compte la leçon inaugurale ou non. Et nous avons vu au dernier cours avec elle Kellar, Son Yen, dans le 4e et dernier poème sur le chapitre de la parabole, Hiyuhon, en jouant sur toutes les nuances du titre sino-japonais Hiyuhon, a donné un véritable résumé non seulement de sa propre vision poétique, mais aussi de la poésie japonaise à thème bouddhique en général. Par ces simples vers, « Et alors faudra-t-il les appeler nuages, les cerisiers de montagne, quand on les compte à qui ne les a point encore vus ?» Relié à la citation scripturaire de paraboles et de locutions « Il prêche la loi sans rencontrer d'obstacles », il pose que la grande majorité des poèmes japonais classiques qui célèbrent les changements de la nature comme métaphore des mouvements du cœur sont intelligibles en tant que poèmes bouddhiques, même s'ils ne sont pas signalés comme tels par une suscription tirée des écritures bouddhiques. Une telle tendance est visible dans la poésie littéraire ou générale de l'époque de Heian, et l'on peut dire que l'appréhension bouddhisante de la poésie ira en s'accentuant jusqu'à l'époque d'Edo, du moins dans les milieux bouddhiques. Ce n'est pas une lapalissade. Nous voyons à l'époque d'Edo une inclinaison, non seulement chez des moines, mais aussi chez des lettrés, à chercher des sens bouddhiques qui n'étaient pas explicites. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu un élément de jeu littéraire dans cet exercice. Mais si on est allé aussi loin dans la surdétermination, c'est qu'il y avait en réalité un terreau originel, où poésie et vision bouddhique du monde se mêlaient étroitement, même en dehors de la poésie japonaise à thème bouddhique. N'oublions pas non plus que le procédé littéraire et artistique appelé mitate, transposition, consistant dans le passage esthétique d'une dimension à l'autre, par exemple en transposant une célèbre courtisane sous les traits du bodhisattva Fugen, ou bien deux servantes d'auberge reproduisant les attitudes des deux célèbres moines chinois du Zen, c'est pas Chan, Kanzan et Jittoku, Hanshan et Shude. La transposition se fait aussi dans les paysages. Qu'il me suffise ici d'évoquer l'exemple le plus manifeste, celui du mont Hiei, que l'on appelle couramment le mont des aigles, en reprenant le nom chinois du pic du vautour, qui vit jadis le Bouddha prêcher le sutra du lotus près de Rajagriha. Lorsque dans les poésies bouddhiques japonaises, ou dans les poésies normales, même non bouddhiques, nous voyons Washi no Yama, c'est évidemment le mont Hiei près de Kyoto, mais ça fait référence directement à l'endroit où le Bouddha avait prêché le sutra du lotus. Et donc le mont Hiei se trouve devenir une sorte de pic du vautour en édition japonaise. Le procédé de la transposition se trouve aussi dans les rapports entre poésie chinoise d'une part et poésie sino-japonaise et poésie japonaise de l'autre. Un exemple très éloquent en est la poésie sur les 8 paysages chinois, Hashon, qui ont été refaites au Japon en sino-japonais sur 8 paysages japonais, choisis selon les mêmes critères que les chinois, puis transposés en japonais. Le fondement théorique de ce procédé de la transposition, vous n'aurez à présent aucune difficulté à le comprendre, ne peut être que le dogme bouddhique des deux vérités, Nitairon, la vulgaire et la réelle, les deux dimensions entre lesquelles se développe le sens de nos poèmes à thème bouddhique. Ce principe est déjà clairement affirmé chez Jien, de qui se réclament presque tous ceux qui se sont consacrés après lui au Shakkyoka, à la poésie à thème bouddhique. Et il est donc nullement étonnant de le retrouver constamment repris par nos poètes. Le mouvement du mitate, de la transposition, est exactement le même. Il implique une identité derrière la différence, conformément à la phrase de Jien que vous connaissez bien à présent, « Nitai Ichinyokan », la contemplation de l'essence unique des deux vérités, ou des deux évidences. On comprend donc, d'après cela, l'aspect programmatique de ce poème de Son Yen, et pourquoi j'insiste sur son importance, pour apprécier sa poésie d'une part, la poésie japonaise à thème bouddhique de l'autre, mais aussi la tendance profonde à bouddhiser la poésie japonaise en général. Vous comprenez bien que cela peut encore aller plus loin, vers la question de la sacralisation du langage, mais justement cela nous entraînerait trop loin et nous devons revenir à notre texte. Nous en sommes aujourd'hui au 4e chapitre du Sutra du Lotus, intitulé en sino-japonais « Shingehon », littéralement « croire et comprendre », en sanskrit « Adimukti ». Alors, je ne vais pas trop insister sur la difficulté de ce terme sanskrit qu'on ne comprend pas très bien, à vrai dire. C'est un terme propre au sanskrit bouddhique, ce qu'on appelait autrefois le sanskrit hybride, c'est-à-dire un mélange de une sanskritisation de formes populaires dialectales indiennes, moyennes indiennes, et qu'il est parfois très difficile de comprendre puisqu'on n'a pas de référence dans le sanskrit classique. Adimukti n'est pas dans les dictionnaires usuels de sanskrit classique, on ne trouve que dans les dictionnaires de sanskrit bouddhique. Il est traduit par inclination, attachement, application. Eugène Burnouf, que vous connaissez certainement de nom, je crois que je l'ai mentionné plusieurs fois, qui avait traduit le Sutra du Lotus, donc le Lotus de la Bonne Loi, en 1852, à partir du sanskrit, avait traduit ce terme Adimukti par confiance. Sylvain Lévy, qui est un grand indianiste et bouddhologue plus tardif, puisqu'il est mort vers le milieu, le premier tiers du XXe siècle, lui, il avait traduit par croyance. Vous voyez que c'est assez amusant puisque c'est alors que donc Edgerton, le grand spécialiste du sanskrit bouddhique, l'avait traduit par ces trois mots que je viens de vous donner: inclination, attachement, application. Si l'on met ensemble les deux traductions de Burnouf et de Lévy, nous avons la traduction chinoise de Kumarajiva, croire et comprendre, puisque Burnouf traduit par confiance, Lévy par croyance, et les sino-japonais, Kumarajiva, lui non plus, n'a pas trouvé de mots convenables. Il a fait cette espèce d'amalgame dont on ne voit pas exactement comment il se relie au sanskrit Adimukti. Et d'ailleurs, il faut se demander pourquoi Burnouf et Lévy ont traduit ainsi. On se demande s'il n'y a pas une référence soit à une version chinoise, soit à une version tibétaine. En tibétain, Adimukti se traduit par Mepa, qui voudrait dire plutôt, je crois, le désir désir ou le respect. Donc c'est on a fait un mélange de ces différentes traductions. Alors, en ce chapitre est développée la seconde parabole, la plus fameuse du sutra, celle du fils pauvre, Gojiyu en japonais, en sino-japonais, que l'on a comparée dès qu'elle fut connue en Europe à la parabole du fils prodigue de l'évangile de Luc. Il y a effectivement quelques similarités, mais je ne saurais dire si elles sont suffisamment importantes pour invoquer l'influence d'une tradition sur l'autre. Cela n'aurait rien d'étonnant. Depuis le XIXe siècle, la recherche philologique a mis en lumière l'ampleur de la diffusion des thèmes narratifs à travers toute l'Eurasie. Nous savons que la légende du Bodhisattva, transformée en Bodhafat puis en Josaphat, s'est propagée jusqu'en Islande. Rien n'empêche qu'un thème aussi simple que celui du fils prodigue, s'il n'est pas apparu spontanément en plusieurs endroits différents, ait voyagé comme les nombreux autres motifs folkloriques répertoriés par la recherche. Il se poserait alors la question du sens de l'emprunt. Nous sommes habitués à concevoir la direction de la transmission comme allant d'est en ouest. C'est le résultat des recherches sur la diffusion des thèmes narratifs que l'on trouve par exemple dans le Hitopadesha en Inde, puis dans le Kalila et Dimna dans les pays de langues arabes, et ensuite les différents remaniements en latin, n'est-ce pas ? Puis à partir du latin, des langues vernaculaires européennes. Mais si l'on admet que le Sutra du Lotus sanskrit remonte à la moitié du IIe siècle après Jésus-Christ, autour de 150, c'est une hypothèse comme une autre, je pense que j'en ai parlé tout au début, elle n'est pas invraisemblable, et que les quatre évangiles étaient à peu près écrits vers l'an 100, donc ça, là aussi je prends une date moyenne, les dates sont trop rapprochées pour que l'on puisse se prononcer formellement, les deux possibilités restant ouvertes. On peut penser que le thème s'est élaboré quelque part entre l'an 0 et l'an 200, et évidemment, il aurait pu aller dans les deux sens. Mais il est temps de retracer les grandes lignes du chapitre « Croire et comprendre », qui se développe selon un plan vaguement similaire à celui du chapitre précédent, la parabole. Après l'annonciation conférée à Shariputra, donc le Bouddha annonce à Shariputra qu'il deviendra Shariputra le grand auditeur, le grand Shravaka, donc, puis le grand Arhat, n'est-ce pas ? Arakan en japonais, se voit annoncer qu'il deviendra lui un jour vraiment Bouddha et pas simple Arakan, si je peux dire. Donc, après l'annonciation conférée à Shariputra, quatre autres illustres disciples, Subuddhi, Mahakatyayana, Mahakashyapa et Mahamodgalyayana, antiques représentants de la première communauté bouddhique, ne se tiennent plus de joie et ils expliquent au Bouddha les raisons de leur liesse. Elles sont proches de celles données auparavant par Shariputra. Il siégeait à la tête de la communauté bouddhique, du Sangha, l'un des trois joyaux, ne l'oublions pas, n'est-ce pas, le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Persuadé d'être arrivé au Nirvana, bon, je ne vais pas entrer dans les détails de ce Nirvana, vous savez qu'il y a deux Nirvana, le Nirvana avec reste et le Nirvana sans reste. C'est très ambigu dans le Sutra du Lotus. On semble faire une distinction entre ces deux Nirvana, donc les auditeurs, les arhats ayant le Nirvana avec reste et les Bouddhas parfaits ayant le Nirvana sans reste. Pour le dire très simplement, le nirvana avec reste, c'est lorsque vous avez accédé à l'éveil, puisque l'éveil, ne l'oublions pas, c'est une compréhension du mécanisme du monde, du mécanisme karmique. Et une fois que vous avez compris ce mécanisme, eh bien, c'est une sorte de remède automatique. Une fois que vous avez compris le dharma, le système du monde, vous n'êtes plus soumis au karma, si bien que vous êtes en nirvana, en réalité. Mais pourquoi nirvana avec reste? C'est parce que vous avez encore un corps humain. C'est-à-dire que vous brûlez, en quelque sorte, les derniers restes de karma jusqu'à votre trépas. Et arrivé au trépas, vous entrez dans le nirvana sans reste. Il n'y a même plus de corps qui brûlait les dernières particules de karma. Vous voyez que c'est une distinction assez simple que l'on a appliquée déjà au Bouddha historique, Shakyamuni, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle le petit véhicule. Alors évidemment, il est un peu simple de penser que le nirvana sans reste soit le nirvana du grand véhicule. Mais pour l'instant, cette distinction peut tenir ici. Donc, persuadés d'être arrivés au nirvana, ils étaient devenus indolents, n'ayant plus à l'esprit que les doctrines abstraites de la vacuité, de l'indifférencié, du sans-opération. C'est amusant de voir cette petite polémique, cette petite flèche mise dans le Sutra du Lotus à l'encontre des grands dogmes de la philosophie bouddhique de l'époque. Il est intéressant de voir que ces dogmes savants sont opposés par eux à une loi des êtres d'éveil, Bosatsuho, concernant les pouvoirs extraordinaires et des actes aussi grandioses que la purification des terres de Bouddha. Vous avez d'un côté des notions quasiment philosophiques, théologiques, et de l'autre des notions plutôt thaumaturgiques. On vous parle des pouvoirs extraordinaires de Bouddha, le fait de pouvoir se déplacer dans l'espace, dans l'univers, de connaître les vies présentes et futures, passées, présentes et futures, de tous les êtres, etc. etc. Et cette fameuse conception démiurgique, en quelque sorte, le Bouddha, pendant qu'il se prépare à devenir Bouddha en tant que Bodhisattva, prépare en même temps, arrange, comme disent même les textes, sa terre de Bouddha, la terre où il va siéger et prêcher sa loi, n'est-ce pas ? Vous avez donc, il se fait son monde en même temps. Et ça va très loin de la doctrine de la vacuité, de l'indifférencié, et surtout du sans-opération, Moussa, n'est-ce pas ? Moussa, qui est donné comme dogme dans lequel se complaisaient les auditeurs. On est vraiment dans une autre dimension de la religion bouddhique, cette fois, vraiment proprement religieuse. Mais de ces enseignements révolutionnaires, ils ne concevaient nulle joie, persuadés qu'ils étaient d'être sortis des trois mondes et d'avoir réalisé l'extinction. Mais à présent, c'est l'annonciation conférée par le Bouddha qui restaure leur jubilation. Ils se savent désormais concernés par la prédication de l'éveillé. Et pas comme les 5000 moines, vous vous souvenez, Bhikkhu et Bhikkhuni, qui étaient partis de l'assemblée du Bouddha, qui avaient quitté l'assemblée. Ils expliquent ainsi leur joie. Nous ne pensions pas obtenir maintenant, si soudainement, d'entendre une loi aussi rare, et nous nous félicitons profondément d'acquérir ce grand profit, de gagner spontanément un trésor d'un prix incalculable, sans l'avoir recherché. Et alors, chose extraordinaire, puisque d'habitude, c'est au Bouddha d'exposer une parabole qui permette à ses auditeurs de comprendre une vérité supérieure, ce sont cette fois ses auditeurs, les quatre énumérés au début du chapitre, qui se proposent de le faire, pour éclaircir eux-mêmes le sens des paroles qu'ils viennent de prononcer. Suit alors une longue parabole, dont la narration occupe quatre pleines pages de la traduction française, plus longue donc que la parabole de la maison en feu. L'original sanskrit présente une particularité grammaticale qu'il était impossible de transposer exactement en chinois. Tout le passage, du début à la fin, est au subjonctif, correspondant en français à un conditionnel de l'irréel du présent, exactement comme le font encore les enfants lorsqu'ils se proposent un jeu de rôle imaginaire. Par exemple, on serait perdu dans la jungle, il y aurait des bandits qui nous poursuivraient en hélicoptère, etc. C'est exactement le même processus. Toute cette narration est à l'irréel du présent. À chaque étape de la narration, donc, on ne peut ignorer qu'on est dans une situation imaginaire. Il ne peut en aller de même en chinois qui n'a pas les équivalents grammaticaux pour rendre une telle situation. La seule indication est le mot initial de la narration, pi en chinois, lu-hi en japonais, et lu-hi en sino-japonais, et en japonais, tatoeba. C'est comme par exemple, qui donnera la tonalité à tout le passage, jusqu'à ce que les disciples reviennent à leur propre cas. Mais évidemment, il faut avoir ce tatoeba, ce par exemple, en tête quand on lit l'ensemble du passage, parce que rien n'indique après que c'est une parabole, n'est-ce pas ? Ces subtilités grammaticales ne sont a priori pas très importantes et pourraient être considérées comme des curiosités philologiques. La solution simple et élégante de Kumarajiva, que je viens d'évoquer, paraît très satisfaisante. Mais on voit où on peut mener la méconnaissance de ces nuances lorsque l'on lit la traduction qu'on a faite d'Armaraksha. Celui-ci, en effet, semble ne pas avoir remarqué que le passage était à l'irréel du présent et l'avoir lu comme un épisode situé dans la suite de l'exposé des disciples et placé dans la même dimension. Il était bien sûr conscient de l'aspect métaphorique de cet épisode, mais il n'a pas su l'isoler du reste, si bien qu'il a mélangé la parabole avec sa propre élucidation, laquelle vient après chez Kumarajiva, ce qui fait que le tout devient à peu près incompréhensible chez Dharmaraksha. Le contraste entre les deux traductions met bien sûr en relief le talent incomparable du cadet. Et c'est encore une fois l'un de ces exemples où on ne peut vraiment pas lire Kumarajiva sans se référer à Dharmaraksha et voir sur quoi il s'appuyait et contre quoi, je ne dirais pas contre quoi il luttait, mais ce qu'il voulait améliorer. Mais revenons à la parabole. Il s'agit d'un homme qui s'est enfui de chez son père dès sa prime jeunesse pour mener une vie errante à l'étranger. Donc, plutôt un enfant au début. Nous nous trouvons alors immédiatement dans l'extraordinaire indifférence pour les nombres de la narration indienne, à laquelle j'ai déjà fait allusion au cours précédent. Vous vous souvenez, au cours précédent, on ne connaissait pas le nombre exact des enfants du maître de maison. Le jeune homme erre, pérégrine ainsi, dit le sutra, peut-être 10, 20, voire 50 ans. Même avec la base de la fourchette, comme on dirait maintenant, son inconscience enfantine perdrait beaucoup de sa crédibilité dans la logique narrative. Mais ce sont des mesquineries sur lesquelles il n'y aurait pas lieu de nous arrêter, si ce n'était que Songhen y fait lui-même allusion, ainsi que nous le verrons, et bien d'autres. On nous dit qu'adulte, la misère du fils ne cessa de croître, l'amenant à poursuivre sa vie errante jusqu'à ce qu'il revînt par hasard dans son pays d'origine. Le père, de son côté, dont on ne sait exactement quelle était la situation d'origine, avait lui aussi cherché son fils, mais il avait fini par s'installer dans une certaine cité, qui se trouve probablement dans la même contrée, d'après la suite du texte. Il n'y avait pas chômé, puisqu'on y décrit sa résidence d'une grande richesse, remplie de trésors, avec une abondance de serviteurs, d'intendants, d'éléphants, de chars, de bétail. Dans toute cette extravagance vient un détail très concret. Je cite, « Les intérêts provenant de ces opérations financières s'étendaient à tous les pays étrangers. Ces marchands et négociants, eux aussi, étaient fort nombreux. » Nous sommes donc dans le même univers entrepreneurial, en quelque sorte, que dans la parabole de la maison en feu, celui des riches marchands, dont on a supposé qu'il était le lieu d'origine du grand véhicule. Enfin, entre autres, on retrouve un personnage similaire dans l'enseignement de Vimalakirti, vous savez, le Yuimagyo, dont le personnage principal, qui est évidemment un grand bodhisattva, mais se présente comme un riche marchand. Un riche marchand et un laïc, même pas un moine. Et vous savez que dans le Vimalakirti, ce riche marchand, ce laïc, qui n'est pas moine, en remontre à tous les grands moines et tous les grands disciples de Shakyamuni. On est un peu ici dans cette atmosphère donc de grande bourgeoisie indienne. Un jour, le fils pauvre, comme il est nommé constamment dans la parabole, Guji, n'est-ce pas, le Mazushiko, Le fils pauvre arrive dans la cité de son père, lequel n'avait lui-même cessé de le chercher depuis 50 ans qu'il en était séparé, nous redit le texte. Il y avait certes de l'amour paternel dans cette quête, mais aussi des préoccupations matérielles. Et là, je cite le sutra encore une fois. Il songeait en lui-même, le maître de maison, le père, qu'il était usé par la vieillesse, que ses biens étaient abondants, que ses entrepôts d'or, d'argent, de trésors étaient pleins à déborder et qu'il n'avait plus de fils. Un jour, il mourrait. Ses biens seraient dispersés sans personne à qui les léguer. C'est pourquoi il se souvenait constamment et intensément de son fils. Vous voyez que, fidèle à l'esprit de la parabole, dont on retrouve un peu la chose dans l'Évangile, vous vous souvenez de la parabole des talents, qui est aussi un éloge du prêt bancaire, en quelque sorte. Là aussi, on se met dans le concret le plus digne de réprobation du point de vue religieux, mais ça va être après pour donner un sens religieux. Un jour, enfin, le fils pauvre, qui vivait de petits travaux, arrive à la résidence de son père. Du portail donnant sur la cour, il aperçoit de loin son père, donc qu'il ne reconnaissait pas, siégeant au milieu de ses gens et de ses clients, gérant ses affaires, entouré de marchandises précieuses, dans un luxe décrit minutieusement. Le fils pauvre est effrayé de cette munificence, croyant voir un roi. Il estime que ce n'est pas un endroit pour lui, nul travail à trouver ici, et on pourrait lui faire un mauvais parti de plus. Il s'enfuit donc. Mais le père, lui, avait immédiatement reconnu son fils, du fond de la cour, en quelque sorte, avec la joie qu'on imagine. Et sa première pensée est éloquente. Voici ce qu'il dit. « Mes biens et mes trésors, j'ai maintenant à qui les léguer. Voici mon héritier. » Mais sa première réaction est désastreuse. Il envoie des serviteurs à sa poursuite pour qu'ils le lui ramènent. Il l'agrippe et le malheureux voit ses mauvais pressentiments se réaliser. Je cite, « Je n'ai rien fait d'illégal, pourquoi m'arrêter? Me voici prisonnier sans avoir commis de crime. C'est à coup sûr la mort pour moi. » Et il tombe évanoui. Le père voit la scène de loin et comprend l'état d'abrutissement dans lequel la misère a plongé son fils dans les 50 ans de privation qu'il a endurés. Il comprend aussi que sa richesse représente un obstacle pour lui. Il se garde donc de déclarer à tous qu'il s'agit de son enfant, le fait relâcher et le laisse aller vers le village voisin, retourner à ses tâches viles. Le père, entre-temps, a décidé de ramener son fils à la raison et à la reconnaissance par des moyens détournés, des expédients, hoben. Il lui envoie deux serviteurs, minables d'apparence, qui vont lui proposer un travail à sa mesure. « Tu seras employé à enlever les immondices. Nous deux, nous travaillerons avec toi. » Et le texte sino-japonais pour « immondices » ici est très éloquent, n'est-ce pas ? C'est le mot « fun » qui veut dire vraiment « la crotte ». Ils lui remettent d'abord son salaire et l'incite ainsi à travailler à la résidence. Et, dit le sutra, le père voyait son fils avec pitié et effarement. Et puis un jour, il décide, comme on le dirait dans un roman d'espionnage, d'entrer en contact avec lui, non sans prendre des précautions. Il se dépouille de ses parures de grand bourgeois, revêt des haillons tachés de graisse et de boue, s'enduit le corps de crasse et prend des outils de nettoyage. Il passe comme par hasard devant les ouvriers et leur lance quelques paroles d'encouragement. Je cite le sutra, « Allez, vous autres, travaillez dur, que je ne vous vois pas fainéanter. » C'est le sutra de Kumarajiva, n'est-ce pas ? Ensuite, quelques temps après, il s'adresse directement à son fils, lui proposant de rester à demeure à travailler chez lui, avec augmentation de salaire et vivre et couvert assuré. Il aura même un vieux serviteur à lui donner s'il en a besoin. Et lui dit, « Je serai comme ton père et tu n'auras plus de soucis à te faire. » Il ressent le besoin de lui expliquer ce changement d'attitude. « Jamais, lorsque tu travailles, je n'observe chez toi tous les défauts que je vois chez les autres. Paresse, colère, paroles hargneuses. Dorénavant, tu seras comme mon fils, celui que j'aurai engendré. » Le fils pauvre balaie ainsi la crotte, tout en s'en tenant à sa condition pendant 20 années. Si nous faisons un calcul rapide, même en admettant qu'il ait fugué en sa toute prime adolescence, disons vers 14 ans, cela fait 14 plus 50, 64, plus 20, 84 ans, ce qui est plutôt grand, vous en conviendrez. Mais je vous ai déjà dit que la logique arithmétique n'a pas cours dans ces récits. On ajoute que les deux se comprenaient l'un l'autre et qu'ils se faisaient confiance, bien que le fils demeurât en son lieu d'origine. L'histoire n'a dès lors plus que deux grandes étapes. Il y a tout d'abord une passation de pouvoir. Sentant sa mort prochaine, on imagine l'âge du père, n'est-ce pas ? Le père transmet au jeune homme de 84 ans la pleine connaissance de ses biens et de ses transactions. Celui-ci a dès lors la maîtrise de tout, je cite le sutra, or, argent, matières précieuses, ainsi que les entrepôts. Mais il ne lui vint pas à l'esprit de vouloir s'approprier ne fût-ce que l'équivalent d'un repas. et surtout, comme précédemment, il demeurait encore en son lieu d'origine, sans être capable de renoncer à la Vilnie de sa pensée. Mais cela aussi changea. Je cite encore le sutra. Le père connut que la mentalité de son fils s'était graduellement épanouie, graduellement, qu'il avait enfin réalisé en lui une volonté de grandeur et qu'il n'avait plus que mépris pour sa précédente disposition d'esprit. Jusqu'à ce qu'enfin le père arrive à l'article de la mort. Devant les autorités du pays, les nobles et les maîtres de maison rassemblés, il leur annonce solennellement, je cite, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai engendré. » Ça rappelle quelque chose, n'est-ce pas ?« Il est réellement mon fils et je suis réellement son père. » Ce n'est plus comme mon père, comme le père, comme le fils. « Je suis réellement Jitsuni. À présent, l'ensemble des liens que je possède sont tous à lui. » On imagine la joie du fils qui conclut l'histoire par cette pensée, je cite, « Je n'avais originellement pas le cœur de rien chercher, et voici qu'à présent, ces trésors, spontanément, m'arrivent. » Mais c'est au tour des grands auditeurs qui viennent de finir cette parabole d'en tirer les vraies conclusions. Le maître de maison, nous l'avions compris, c'est l'ainsi venu. Les auditeurs sont les fils de l'éveillé. Et ils disent nous nous délectons de notre attachement à des enseignements mineurs. En ce jour, le vénéré du monde nous a amenés à réfléchir et à déblayer les immondices des puériles tractations de ces enseignements. Alors que nous, nous redoublions de zèle dans ceci afin de gagner la salaire d'une journée qu'est l'accès au nirvana. Vous voyez que le but suprême du bouddhisme pré-lotusien, si j'ose dire, est comparé au salaire d'une journée, à balayer les immondices, à balayer la crotte. Forte parole dont nous pouvons imaginer la puissance destructive lorsqu'elle fut prononcée pour la première fois en Inde. L'expression est si forte qu'elle est répétée quelques lignes plus bas. Je cite « Alors que le vénéré du monde, de par le pouvoir de ses expédients, prêche la sagesse d'ainsi venu, nous autres, ayant gagné de l'éveiller ce salaire d'une journée qu'est le nirvana, nous estimons avoir fait là grand gain, et pour ce qui est de ce grand véhicule, nous n'avons plus la liberté, la volonté de le rechercher. » Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. La partie en vers ne faisant que répéter la partie en prose. Et il est grand temps de lire les quatre poèmes que Soyen tire de ce chapitre. Je voudrais quand même, malgré tout, revenir sur le fait, vous avez tous senti la polémique qu'il y a derrière cette parabole, n'est-ce pas ? Tout ce qui était les grands enjeux du bouddhisme, non seulement du petit véhicule, mais sans doute des premiers textes du Mahayana, du grand véhicule, ce qui faisait peut-être aussi les prémices de la philosophie du Madhyamika, n'est-ce pas ? Tout cela est tourné en dérision dans cette parabole. Donc le premier poème de Soyen est fait sur la citation « Nous qui siégeons à la tête de la communauté et sommes pareillement décrépis par l'âge ». Elle provient du tout début du chapitre, lorsque les quatre auditeurs s'avancent vers le Bouddha et poursuivent ainsi. « Nous estimions avoir désormais obtenu le nirvana et ne plus pouvoir supporter d'autres tâches. Aussi ne cherchions-nous plus à progresser vers l'éveil complet et parfait sans supérieur. » Vous voyez que la vraie opposition n'est pas entre nirvana avec reste et nirvana sans reste, c'est entre le nirvana, qu'il soit avec ou sans reste, et l'éveil complet et parfait sans supérieur, qui transcende bien l'idée même de nirvana. C'est l'éveil suprême de Bouddha, et pas l'éveil normal de Bouddha, puisque ce serait l'éveil normal de Bouddha est en fin de compte l'éveil d'un auditeur, n'est-ce pas ? C'est l'éveil parfait sans supérieur. Et Soyen, de chanter donc, dans son poème, Uta, alors d'abord en japonais, Omoikiya, Ronyaku inochi no nagaraete, Nori no hanasaku haru o mimuto wa. Omoikiya, Ronyaku inochi no nagaraete, Nori no hanasaku haru o mimuto wa. Que je vous traduis maintenant. Y avions-nous pensé, jeunes vieux dont la vie s'est ainsi prolongée, que nous verrions le printemps où éclot la fleur de loi. La première chose qui devrait retenir notre attention dans ces vers, c'est une présence incongrue, celle d'un mot sino-japonais. Je pense que quelques-uns parmi vous l'auront noté, dont vous savez bien qu'ils ne sont généralement pas admis dans un waka. Si le poète en utilise, c'est qu'il veut produire un effet ou transmettre un message. Il faudra donc se demander lequel. Le mot sino-japonais incongru est ici ro-nyaku, un composé en deux caractères signifiant d'ordinaire vieux et jeune, ro-nyaku. On peut l'écrire de deux façons d'ailleurs, mais ça n'entre pas en jeu ici. Mais on sait l'ambivalence et des caractères chinois et aussi des composés qui peuvent exprimer des relations grammaticales fort différentes. Il pourrait signifier tout aussi bien ce composé ro-nyaku que vieux, jeune, au singulier ou au pluriel, que le vieux et le jeune. En ce dernier sens, le rapport avec la parabole du fils pauvre est transparent. Il serait alors question ici du père et du fils. Mais cela n'expliquerait pas la suite du poème, puisque seul le fils voit le printemps, le père, lui, l'ayant toujours connu, puisque c'est le Bouddha. Il ne serait pas impossible de comprendre les vieux jeunes, au pluriel, comme une référence, une anticipation, mais faite par Sun Yuan, ce qui serait tout à fait normal. On peut anticiper dans un chapitre précédent du Sutra du Lotus, enfin, lorsqu'on parle d'un chapitre précédent du Sutra du Lotus, l'enseignement d'un chapitre ultérieur. Cela se fait, n'est-ce pas ? Donc il ne serait pas impossible de comprendre les vieux jeunes comme une référence au célèbre épisode du chapitre 15 des Bodhisattvas surgis de terre, illustrant les paradoxes temporels des disciples du Bouddha, infiniment plus âgés que le Bouddha lui-même, du moins sous sa forme actuelle. Mais là encore, le rapport est loin d'être évident et l'on n'en verrait pas l'intérêt. En revanche, si l'on comprend comme le vieux jeune, nous sommes mis par le poète face à un trait surprenant de la parabole du fils pauvre, trait sur lequel j'ai insisté à dessein, l'étrange question de l'âge du fils. Le chiffre de 50 ans est répété plusieurs fois dans le chapitre, et il a à l'évidence frappé l'imagination des lecteurs, qui n'ont pu s'empêcher de compter, malgré l'atmosphère intemporelle de la narration. Je l'ai déjà dit, en mettant les choses au mieux, le fils pauvre a bien plus de 60 ans lorsqu'il revient chez son père. L'appeler vieux-jeune est alors tout à fait approprié. Et l'utilisation d'un composé chinois pour l'exprimer s'explique par le fait que l'on ne voit pas comment on pourrait le faire, comment on pourrait le dire en japonais pur, n'est-ce pas ? Enfin, en japonais de waka, en tout cas. Dans le japonais ancien, nous avons le terme waka doshiyori, que vous connaissez sans doute, mais on n'a pas toshiyori waka. Les Wakadoshiori étant les membres du conseil rapproché du shogun à l'époque d'Edo. Ce serait en plus un anachronisme parce que ça n'existait pas à l'époque. Mais manifestement, on ne pouvait pas faire ce genre de composé dans un waka. Le composé est donc très bien adapté, faute de mieux, pour désigner le protagoniste de la parabole. Et bien entendu, interprété comme un pluriel, ce que l'on peut faire aussi, il se rapporte aux auditeurs de la suscription scripturaire, pareillement décrépits par l'âge. Donc ils sont à la fois vieux, mais en même temps novices dans la vraie doctrine du Bouddha. Ces vieux auditeurs viennent d'entrer dans le grand véhicule. En ce sens, ils sont jeunes. La vie prolongée, Inochi no Nagaraete, est à la fois celle du fils pauvre, qui doit subir 20 ans d'exercice de voirie, en plus de ses 50 années d'errance, et celle des auditeurs, qui, au terme de pratiques relevant du petit véhicule, ont fini par trouver ce qu'ils n'espéraient pas trouver. Ainsi qu'ils le disent dans la partie en vers du Sutra du Lotus, je cite, « En ce jour, nous avons obtenu ce qui était sans précédent, ce que nous n'espérions pas même. Aujourd'hui, nous l'avons spontanément gagné, de la même façon que l'enfant pauvre gagna un trésor incalculable. » Nous n'oublierons pas non plus, mais je ne fais là qu'une suggestion, que Jien, le grand prédécesseur de Sun Yuan, avait rédigé un recueil de joutes poétiques entre vieux et jeunes, Ro-nyaku Uta Awase. Et il se peut que l'intrusion de ce mot sino-japonais soit aussi une discrète référence à ce titre, Ro-nyaku, n'est-ce pas, la joute poétique, le concours poétique entre jeunes et vieux, en raison de l'importante préface sur la langue japonaise et le waka que lui avait donné Jien. C'est un texte théorique important que Sun Yuan avait certainement à l'esprit. Je vous l'ai mentionné au début de ce cours. Et bien sûr, Sun Yuan, qui avait édité les textes de Jien, ne pouvait pas l'ignorer. Une fois éclaircie la première partie du poème, la seconde ne pose pas de difficulté, puisqu'elle a recours à la phraséologie habituelle dans les poèmes à thème bouddhique, l'éclosion de la fleur de loi. Rappelons que ce n'est que la lecture développé en japonais du titre abrégé qui apparaît dans le sutra lui-même, Hokke. C'est donc l'autre défaut de ce poème, il est explicite dans sa formulation, il est explicitement bouddhique. Quant à la question qui est divisée en deux parties formant le premier vers et le dernier, je vous rappelle, n'est-ce pas, si, il faut savoir que dans les poèmes japonais, j'ai fait souvent allusion, le premier vers et le dernier forment souvent un tout. Il est important de les tenir à l'esprit lorsqu'on veut interpréter l'ensemble du poème. Vous vous souvenez, je vous répète, c'est « Omoikiya haru o mimtowa ». Donc, si on remet en japonais normal, ça serait « haru o mimtowa omoikiya », n'est-ce pas ? Donc, si nous mettons le premier vers et le dernier ensemble, nous avons « y avions-nous pensé que nous verrions le printemps », sous-entendu, « où éclot la fleur de la loi ». Je pense que tout le monde comprend qu'elle reprend sous forme interrogative la citation que je viens de faire. Nous avons obtenu ce qui était sans précédent, ce que nous n'espérions pas même. Aujourd'hui, nous l'avons spontanément gagné. Donc, nous l'avons spontanément gagné, c'est le haru o mimtowa, n'est-ce pas, l'éclosion du printemps, que nous aurions vu le printemps, et le n'espérions pas même, c'est omoikiya. Y aurions-nous pensé ? Elle se trouve reformulée plusieurs fois dans ce chapitre, et on retrouve des expressions voisines dans les autres aussi, car elle reprend une locution qui est l'une des plus typiques du Sutra du Lotus et de bien d'autres sutras, utilisée pour décrire le caractère inouï de son enseignement. Il faut savoir qu'il y a l'une des expressions importantes du Sutra du Lotus, c'est Mizou, n'est-ce pas, que l'on prononce Mizou ou Mizou, lu en japonais Imada Katsute Arazu, ce qui n'avait encore jamais existé. J'aurai peut-être le temps d'y revenir tout à l'heure. Ce poème se distingue de la plupart de ceux de la centurie par deux traits qui nous apparaissent comme défectueux. L'emploi d'un composé sino-japonais d'une part et le caractère explicite de sa seconde moitié avec l'emploi de fleurs de loi. Nori no hana. Nous ne la retrouvons qu'une seule autre fois sous la forme légèrement différente de minori no hana, avec le même sens. Reconnaissons que c'est très peu pour une centurie bouddhique. Quant à la présence d'un kango, d'un terme sino-japonais, elle est encore plus remarquable, puisque, sauf erreur, il s'agit de la seule occurrence de toute la centurie. Je ne fais pas allusion aux mots qui sont en réalité d'origine chinoise, mais que Sōen ne pouvait pas connaître comme d'origine chinoise. On faisait par convention semblant d'ignorer l'origine chinoise dans les waka. L'un des mots les plus caractéristiques, c'est oku, n'est-ce pas, le sens, le fond, le très fond, le profond, qui est un mot d'origine chinoise. C'est la même lecture que o dans ogi, mais ici, dans les poèmes japonais et pas seulement dans les poèmes bouddhiques, on le considère comme un terme japonais. Donc, nous avons la seule occurrence chez Sōen d'un terme, d'un kango. Elle est d'autant plus singulière que la plupart du temps, chez les poètes qui se permettent l'emploi, en principe toujours limité, de ces termes sino-japonais, la cause en est facile à discerner. Soit qu'il s'agisse d'un terme propre au bouddhisme et jugé intraduisible, ou devant être conservé tel quel en raison de sa sacralité, et l'exemple le plus fameux est peut-être le poème attribué à Saicho, donc le fondateur du Tendai, un poème qu'il aurait fait soit à l'extrême fin du 8e siècle ou soit tout au début du 9e siècle, en s'installant sur le mont Hiei, justement, dont je parlais tout à l'heure. Ce poème que je vous cite en japonais, qui n'est pas très facile à traduire en français, parce qu'il enfin, je vais vous expliquer pourquoi, mais l'entendre, il suffit de l'entendre pour comprendre la difficulté de la traduction. En japonais, donc, si l'on peut dire, Anokutara Sammyaku Sambodai no Hotoketachi Wangatatsu Soma ni Myoga Arasetamae. Vous voyez que les deux premiers vers, Anokutara Sammyaku Sambodai, ce n'est que la transcription du terme sanskrit Anuttara Samyak Sambodhi, qui veut dire l'éveil complet et parfait sans supérieur, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'objectif suprême du grand véhicule et du Tendai. Et ensuite, donc, alors, ceci veut dire donc au Bouddha au pluriel, à l'éveil parfait, complet, sans supérieur. Wanyatatsu somani myoga arasetamae, veuillez accorder votre bénédiction à l'arbre que je plante ici. Tatsusoma, donc cela symbolise le temple, l'ermitage du mont Hiei que Saicho est en train de construire, n'est-ce pas ? Mais vous voyez qu'il y a un autre mot, Myoga, qui est encore un terme sino-japonais, qui veut dire littéralement les ajouts cachés, les bienfaits cachés, en quelque sorte, qu'on peut traduire par bénédiction. Donc vous avez à la fois Anokutara Samyaku Sambodai et Myoga dans le même terme. Dans le même poème bouddhique. Pourquoi Saicho, ou celui qui l'a attribué à Saicho, l'a utilisé ? C'est simplement parce que ce sont des termes tellement chargés, religieusement, dogmatiquement, doctrinalement, que le fait même de les traduire aurait été senti comme un affaiblissement. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on peut mettre des mots non japonais dans un poème bouddhique. L'autre raison, soit encore qu'il s'agisse de termes pris directement dans le sutra, comme dans les poèmes de Jien sur les 10 incités, où chacune de ces 10 incités, Nyoseso, Nyosetai, Nyosesho, etc., est donnée telle qu'elle en sino-japonais. Mais l'étonnant ici est que le terme utilisé par Songyen ne se trouve pas dans le sutra du lotus. Il l'introduit de lui-même, sans autre justification que sa commodité sémantique, et peut-être le désir de faire une discrète allusion à Jien, comme je vous l'ai dit. Je crains malheureusement qu'il soit impossible d'aller plus loin dans l'explication des intentions du poète ici, et il faut savoir s'arrêter. Le poème suivant, le numéro 14, est fait sur une citation scripturaire que nous avons déjà vue. Gagner spontanément un trésor d'un prix incalculable sans l'avoir recherché. Il nous ramène à l'art de Songyen auquel nous sommes à présent peut-être plus sensibles. Je le cite d'abord en japonais. Hini mingaku. Tama no hikari o wagayado no niwa no kozue no hana ni miru kana. Hi ni migaku tama no hikari o wagayado no niwa no kozue no hana ni miru kana. Que je traduis ainsi. L'éclat d'un joyau, chaque jour poli, se voit dans la fleur, à la ramille du jardin de ma demeure. Cette pièce semble faire écho à celle de Teika, le grand poète de la fin du XIIe siècle, qui a formé le milieu poétique où Jien a œuvré, n'est-ce pas ? Ce poème de Teika, qui est consigné dans le Shokuko Kinshu, est ainsi en japonais. Hi ni migaku tamaki no miya no sakurabana, haru no hikari to ue ya okikem. Traduit ainsi, en ce palais aux bijoux chaque jour poli, les fleurs de cerisier seront-elles réceptacles de l'éclat printanier ? C'est un poème donc entièrement littéraire. Où l'on retrouve le premier vers de Songyen et le début du second, Tamaki et Tama, de même que les mots lumière, Hikari et fleur, Hana, tandis que la demeure de Songyen, Yado, répond au palais de Teika, Miya. En remplaçant les bracelets Tamaki de Teika par le mot Tama, simplement les deux premières syllabes sont identiques, comme vous le voyez, n'est-ce pas ? Songyen l'utilise ici pour la première fois dans son recueil, où il apparaît 5 fois en tout. Ce terme japonais désigne d'abord toute pierre belle ou précieuse, comme le jade, la perle, puis tout objet sphérique, la larme, namida, ou la goutte de rosée, tsuyu no tama, de pluie, ame. Évidemment, son homophonie avec un autre tama, signifiant âme, principe vital demeurant dans le corps, ne saurait être négligé dans un contexte religieux. Tama prenant alors le sens de kokoro, ce qui est très important, et plus spécialement de kokoro pensée, et plus spécialement pensée éveillée. Ainsi qu'on le trouve dans un poème de Jien sur le chapitre 12 du Sutra du Lotus, dont la scène centrale est l'éveil de la fille du roi des dragons. Éveil dont la rapidité est comparée à celle avec laquelle la fillette fait don au Bouddha d'une perle dont le prix équivaut à tout un univers. Je vous cite ce poème en japonais, ce poème de Jien, où nous voyons bien explicité le sens de Tama ici. Watatsumiya, yagate minami ni sasu hikari, tama ukeshi ni kanete mieniki. Vous retrouvez des résonances avec notre poème. Je vous le traduis ici. Du palais des mers, une lumière soudain brille vers le sud. Il nous semble à l'avance avoir reçu la perle. Avoir reçu la perle. Dans ce poème est concrétisée la comparaison du sutra entre perle et éveil, puisque tama y signifie à l'évidence la pensée éveillée. Songyen ne fait que reprendre une équivalence bien attestée. Mais, comme nous le savons maintenant, plus la lettre du poème est éloignée de la lettre du sutra, plus nous y devons chercher le mot ou l'image qui assurera le lien entre les deux textes, le mot suscitant l'image. Il est ici évident, et sera d'ailleurs repris dans le poème suivant. Il s'agit de la ramille, le rameau, la petite branche, en japonais kozue, qui s'analyse facilement en ko, petit, et sue, branche, rameau. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ko signifie aussi enfant, fils, et sue a le sens de bout, extrémité, de dérivé par rapport au principal, mais aussi de postérité, fils, descendant, shison, n'est-ce pas ? Sue a aussi une forte dimension temporelle pour désigner le futur, l'avenir, qu'il ne faut sans doute pas négliger ici, bien qu'elle ne semble pas primordiale. Il est ainsi clair que Kozue, la ramille, est le fils pauvre de la parabole. Kozue reprend Ko en réalité. Et que c'est à partir de cette égalité que nous pouvons lire le poème. Si la fleur qui apparaît sur la ramille est bien, en première lecture, le Sutra du Lotus, une lecture plus attentive en comparaison avec les autres poèmes bouddhiques nous rappelle que la fleur est aussi la pensée éveillée, ce qui le renvoie au tama de la première moitié du poème. J'en donnerai deux attestations venant de Jien, que son haine ne pouvait bien sûr pas ignorer. Le premier est fait sur ce même quatrième chapitre. Les vagues de nos pensées ne laissaient point prévoir qu'au pain de la grève d'un tel trésor, la fleur s'épanouit. Les vagues de nos pensées ne laissaient point prévoir qu'au pain de la grève d'un tel trésor, la fleur s'épanouit. Je simplifie ici légèrement la traduction, mais je reviendrai dans le prochain poème sur la partie que je laisse de côté. Nous remarquons en tout cas que l'impression générale de ce poème consacré au même épisode est d'un passage d'un cas humain individuel, un éveil touchant l'ensemble de la nature. Ce qui est encore plus remarquable si on lit le poème en japonais, ce que je vais vous faire maintenant. Oki tsunami, omoi mo yoranu isone matsu kakaru takara no hana no sakikeru. Oki tsunami, omoi mo yoranu isone matsu kakaru takara no hana no sakikeru. Vous voyez sans doute pour les japonisants la partie que je laisse de côté pour tout à l'heure. Donc cette impression générale de poème consacré au même d'un éveil touchant l'ensemble de la nature est fondée sur l'emploi de hana, n'est-ce pas ? L'autre exemple, peut-être plus explicite encore, de Jien, se trouve dans l'un de ses poèmes sur l'unité d'aspect, Nyoseso. Je vous le lis en japonais. Iro ni izuru sono arisama wa kanete yori sakubeki hana no tsubomanu zo naki. Apparence qui se révèle dans la rutilance des formes. Nul qui depuis toujours ne contienne en bouton la fleur qui doit s'épanouir. Où l'on trouve la même idée plus fortement exprimée de la pensée éveillée, sakubeki hana, la fleur qui doit s'épanouir, la fleur qui va s'épanouir, c'est-à-dire la pensée qui va s'éveiller, s'étendant à l'ensemble du phénoménal, puisque tout ce qui est forme, rutilance des formes, ido, n'est-ce pas ? Et adisama, c'est donc, va s'éveiller. Si nous en revenons à notre poème, nous pouvons à présent remettre en place les correspondances. Une fois que nous avons compris que la ramille est le fils, la fleur l'éveil, c'est-à-dire la prise de conscience par le fils de sa réelle identité, de la découverte de sa vraie nature. Le jardin est la cour de la luxueuse résidence du maître de maison, celle-ci étant bien sûr désignée par les mots « wagan yado », pouvant signifier « ma demeure » ou « notre demeure », renvoyant donc aussi au collectif « père-fils », mais pas seulement. L'identification de Kozue rend limpide la première moitié du poème « chaque jour poli ». Le verbe pour « polir » signifiant aussi « frotter »,« nettoyer », et le mot « hini » quotidiennement renvoie au travail journalier de balayage de la cour, « niwa », par le fils pauvre. « Tama et migaku », donc la perle et le fait de frotter, désignent aussi autant les biens matériels sur lesquels s'exerce ensuite le travail du fils, les perles et autres trésors briqués et essuyés, que bien sûr l'exercice de méditation portant sur l'esprit lui-même. Vous connaissez bien sûr le célèbre poème Zen, n'est-ce pas, Chan, sur polir le miroir, nettoyer le miroir, kagami o migaku, c'est le même mot. Nous avons donc ici encore une double, voire triple dimension de lecture du poème. Tout d'abord, comme transposition poétique de la lettre du sutra, il signifiera « L'humble travail quotidien accompli dans la cour du palais de son père portera des fruits splendides pour le fils. » Mais aussi, et pourrait-on dire, en allant au-delà de l'esprit du lotus, tout en le prolongeant, pour s'élever aux doctrines du Tendai, de l'école Tendai, dont Son-en est un grand maître, bien sûr. L'exercice quotidien sur l'esprit mènera à son éveil. Et enfin, en opérant comme il est normal dans la pensée Tendai, la fusion entre la comparaison et son objet, ce qu'on appelle, c'est hu ou hi, ho, n'est-ce pas ? Hi, la comparaison, ho, l'objet de la comparaison, qui deviennent un. Donc, le monde inanimé avec lequel nous cohabitons, par l'exercice que nous faisons nous-mêmes sur notre esprit, s'éveillera avec nous, ce qui est la doctrine du scalpel adamantin, du sixième patriarche du Tendai chinois dont je vous avais déjà parlé. Reconnaissons que nous avons ici un excellent exemple à la fois de lecture poétique du sutra et de la subtile implantation d'une exégèse ultra-lotusienne ou post-lotusienne dans sa lettre. Le poème suivant, le 15e, va prolonger l'image du fils en tant que rameau ou ramille, tout en insérant de la même façon une nouvelle perspective exégétique. Il est fait sur la citation scripturaire « Passant d'un patron à l'autre, il arriva d'aventure à la résidence de son père ». Il s'agit bien sûr de l'enfant pauvre. Il s'énonce ainsi, alors en japonais, « Furusato no hana no kozue o ikanishite yoso no kumoi ni tadorikitsudan. Furusato no hana no kozue o ikanishite yoso no kumoi ni tadorikitsudan. Comment ai-je pu la ramille fleurie du village natal la chercher au hasard sous un ciel étranger ?» Nous pouvons donc du premier coup d'œil identifier le fils derrière la ramille. Mais il est étonnant de ne pas trouver de père, qui figure pourtant dans la citation. On contrastera cela avec un poème de J.N. sur le même chapitre, où le grand prédécesseur n'hésite pas à expliciter la citation. Le poème de J.N. étant « Kusa no ioni karisome ni fushi o surumademo wanga tarachine no nagori narikeri. Wanga tarachine no nagori narikeri. Quand même nous dormons d'un somme passager en une hutte d'herbe, c'est encore un souvenir des soins de notre père. » Même en utilisant pour père un terme poétique signifiant le nourricier, c'est le tarachine, n'est-ce pas ? Tarachine, tarachime, et qui désigne tout d'abord la mère, puis le père ou les parents, Jien nous donne bien le mot même du sutra, tarachine, équivalent à fou, le père. Son-en n'utilisera jamais ce terme, qui apparaît 4 fois dans la centurie de Jien. Et nous savons pourquoi. C'est dans le souci d'éviter un lien manifeste entre la citation scripturaire et l'œuvre poétique. Mais si nous regardons les endroits importants du poème, que sont le début du premier vers et du quatrième, nous apercevons immédiatement le contraste entre Furusato et Yoso. Furusato, le village natal, le pays natal, d'une part, et l'ailleurs, d'autre part, Yoso, ailleurs. Le contraste avec Furusato est accentué par Kumoi, littéralement résidence des nuages, donc nuage, ciel, mais aussi ciel étranger, pérégrin, ciel pérégrin. Si l'on suit grammaticalement la structure du poème et de la grammaire japonaise, ne l'oublions pas, parce que la grammaire japonaise est aussi stricte que toute autre structure linguistique, ce que nous y trouvons dans ce poème n'est pas la transposition exacte de la citation scripturaire, dont le fils est le sujet, puisqu'ici le mot « kozue » est clairement l'objet du verbe « tadoru » chercher, chercher au hasard. Si nous en tenons à la grammaire, donc, la première lecture évoquerait en même temps un épisode qui précède celui de la citation, à savoir la recherche du fils par le père, à laquelle il est très brièvement fait allusion avant la description de l'installation d'une père dans une ville où il va établir sa fortune. Le père est donc le sujet, et le poème dirait alors à première vue, en évoquant l'arrivée du fils au portail du père, qu'il n'avait servi à rien d'aller le chercher ailleurs, sous un ciel étranger, puisqu'il est arrivé de lui-même, spontanément, au pays natal, chez son père, donc. Vous voyez l'inversion. Mais le sens du poème pivote en réalité sur le transfert de sens de la locution « Furusato no hana no kozue ». En première lecture, c'est le fils au trésor, hana décrivant la récompense finale, qui est le transfert du trésor, de la doctrine du lotus et de l'éveil parfait. C'est donc le fils au trésor paternel, Furusato, du pays natal. Mais nous pouvons, en redonnant à Hana son sens allégorique de pensée éveillée, accéder à une dimension plus profondément doctrinale, celle de l'éveil originel. La fleur du pays natal, s'entendant comme Hongaku en japonais, l'éveil inné. L'ensemble du poème s'entend alors comme une interrogation méthodologique. Pourquoi aller chercher par des pratiques extérieures, c'est-à-dire celles du petit véhicule, qui ne feront qu'entraîner plus loin encore. N'oublions pas le début du chapitre où les auditeurs parlent de leur état précédent de lotus, qui ne feront qu'entraîner plus loin encore. Pourquoi aller chercher un éveil qui nous est inné au fond de notre nature ? Ce poème, donc, désarçonne le lecteur par son ambiguïté. Venant immédiatement après une pièce où Kozue signifie bien le fils en même temps que la pensée éveillée, il semble ici que ce soit ce second sens qui prédomine, le sens de fils n'apparaissant que fugitivement. Nous voyons en ce cas que les deux poèmes sont liés et doivent se lire de façon ascendante, ce lien étant marqué par la reprise du mot « Kozue », dont Song Yen approfondit le sens, même s'il n'y a effectivement aucune solution de continuité entre les deux dimensions sémantiques, et donc entre les deux poèmes. Song Yen y explore la portée du même mot et de la même image, en lui donnant un élan herméneutique qui mène le lecteur à une véritable révélation doctrinale. Il ne faut bien sûr pas en exagérer la nouveauté, ce sont des doctrines bien connues du Tendai, et donc du lecteur lettré de l'époque. L'audace ne réside que dans l'ingéniosité poétique de Song Yen. On aurait pu penser à une sorte d'accident de parcours poétique dans ce poème numéro 15, où l'on attendait le fils comme sujet, alors qu'il apparaît comme objet, malgré la citation scripturaire. Or, dans ce quatrième et dernier poème du chapitre 4, force est de reconnaître que nous avons encore affaire à un même procédé d'inversion. La citation scripturaire est en effet explicite. Je cite « Son père pensait à lui avec angoisse. Aux quatre orients, il menait des recherches. » C'est la brève phrase, cette fois tirée de la partie en vers, où le sutra décrit la quête du fils par le père. Mais voici le poème que cette citation inspire à Song Yen. Je lis d'abord en japonais. Isoji amari, yomo no yamabe no yobu kotori, ochikochi shitomo aware to yakikun. Je relis. Isoji amari, yomo no yamabe no yobu kotori, ochikochi shitomo aware to yakikun. On pourrait lire au lieu de Ochikochi Hito, Ochikochi Bito, mais ce n'est pas sûr. Enfin, je le traduis ainsi. 50 ans et plus, aux quatre coins des monts, l'oisillon appelle. Partout et en tout lieu, on l'entend avec pitié. C'est bien l'oisillon, le petit oiseau, ou l'enfant oiseau, reprenant le préfixe ko, qui s'écrit avec le même caractère chinois que fils dans le sutra, et dans Kozue, n'est-ce pas ? C'est bien l'oisillon qui appelle aux quatre coins des montagnes. Le mot yomo, partout dans les quatre directions, s'écrit avec les caractères chinois shiho, les quatre orients, qui figurent dans la citation scripturaire, ce qui ne rend que plus évidente l'inversion qu'opère Song Yen. Le sutra dit bien que le père menait des recherches aux quatre orients, alors que le poème affirme que l'oisillon appelle dans les quatre orients. Mais il est vrai que le même composé Shiho est aussi utilisé dans le même chapitre pour décrire les pérégrinations du fils. C'est peut-être un rappel, simplement. Le premier mot du premier vers, Isoji, signifie le plus souvent 50 ans, parfois 50 seulement. Il existe tout juste la possibilité de le prendre au sens littéral. Les 50 chemins, ça s'écrit, Isoji s'écrit avec le dernier caractère, Ro, qui signifie Michi aussi. Donc les 50 chemins, ou au lieu de chemin des 50, ce qui serait le sens encore plus littéral. 50 signifiant alors une grande quantité. Les deux premiers vers combinés pourraient signifier, en ce cas, par de nombreux chemins aux quatre coins des monts. Song Yen réussirait ainsi à insérer la référence temporaire, quasiment absurde, de 50 ans, si caractéristique de cet épisode, tout en la neutralisant sémantiquement par sa transformation en un simple adjectif descriptif spatial. Isoji no yomo, n'est-ce pas ? Isoji amari no yomo, c'est-à-dire les quatre directions dans toutes les montagnes, dans tous les sens. Jien n'avait pas fait autrement dans le poème que je vous ai cité tout à l'heure, où le vers que j'avais traduit par « au pain de la grève », Isone Matsu, vous l'avez sans doute compris, peut aussi s'entendre par jeu de mots comme « attendu 50 ans » et se rapporte alors au trésor. Nous voyons en tout cas l'importance qu'a ce nombre pour les poètes qui abordent ce chapitre et qui tâchent de s'en accommoder en le rationalisant d'une façon ou d'une autre. Mais que l'oisillon appelle par 50 chemins ou pendant 50 années, ce qui lui donnerait la longévité d'un perroquet, n'est-ce pas, pour un oisillon, cette image touchante d'un petit perdu dans la nature sauvage suscite un sentiment décrit dans la seconde moitié du poème. Ceux qui l'entendent, où qu'ils soient, ressentent pour lui de la pitié. Cependant, si nous lisons Ochikochi Shito En tout lieu, l'homme l'écoute avec pitié. Cela impliquerait une plus grande adhésion au sutra. Ce serait le père, mobile lui aussi, puisqu'il recherche son fils, qu'il entend sans parvenir à le retrouver. D'ailleurs, même sans faire l'assimilation phonétique, Shito peut se comprendre au singulier comme au pluriel. C'est donc au lecteur de moduler sa compréhension. Le comprendre comme un singulier serait le renvoyer au père de la parabole, et donc au Bouddha en seconde lecture. Le comprendre comme un pluriel, c'est rendre le sujet plus diffus. Il s'agit alors de tous les habitants de la région, et c'est éloigner un peu plus le poème de son sens religieux. Ces quatre poèmes se situent en conclusion dans un périmètre thématique assez cohérent. Du premier, avec l'insolite apparition d'un terme sino-japonais, vieux-jeune, au dernier, avec son mot initial, 50 ans, c'est bien le paradoxe chronologique qui est souligné, tandis que les deux pièces intermédiaires, reprenant le même mot Kozue, Ramille, balayent l'éventail de ses possibilités sémantiques. Nous avons avec ce chapitre « Croire et comprendre », confirmation de notre impression grandissante au fil des chapitres. Les poèmes de la centurie ne sont pas à prendre isolément, mais dépendent les uns des autres, ce qui n'est possible que lorsqu'ils sont l'œuvre d'un seul poète, à moins d'être réordonné par un compilateur, ce qui se fera à l'époque d'Edo ou de Monomachi. Je vous remercie de votre attention.